Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Du Grain à Moudre, nous sommes ensemble jusqu'à 19h. Il y a eu d'abord un vendredi noir à la veille de Noël, et puis il y a aujourd'hui cette question qui s'affiche dans la plupart de nos journaux, la bulle du Bitcoin peut-elle éclater? On sort en effet d'un week-end mouvementé pour cette crypto-monnaie créée il y a presque 10 ans. Après avoir atteint les 20 000 dollars à la mi-décembre, sa valeur a chuté en quelques jours pour passer sous la barre des 11 000 dollars avant de remonter légèrement aujourd'hui. N'est jamais cependant que le cinquième crack observé depuis la création de cette monnaie en 2008 et qui s'en est toujours relevé, ce qui semble là aussi être le cas depuis ce lundi. Mais il y a là un contexte particulier. D'abord, un récent piratage de données la semaine dernière et la faillite d'une plateforme de bitcoins en Corée du Sud, ce qui interroge la sécurité d'un système créé par un algorithme et qui échappe au contrôle des États et des banques. Il y a aussi ces grandes places financières qui s'intéressent de plus en plus au bitcoin pour sa valeur spéculative. Se pose alors vraiment la question de sa circulation, comment, et de sa détention, par qui, ainsi que celle de son encadrement. Et puis il y a enfin l'enjeu central de la confiance qui se pose face à une monnaie qui semble plus que jamais aujourd'hui nous échapper, trop inaccessible, trop chère, difficilement contrôlable. Alors les monnaies électroniques vont-elles nous ruiner ? C'est notre sujet du jour avec trois invités pour en parler ce soir. Ludovic Desmet, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes professeur d'économie à l'Université de Bourgogne et co-auteur avec Jérôme Blanc des Pensées monétaires dans l'histoire publiées chez Classique Garnier. En face de vous, bonsoir Adli Takal-Bataille.
Bonsoir.
Vous êtes chercheur en linguistique et également président du Cercle
étudiant,
du Bitcoin.
Étudiant,
d'accord. Je vais trop vite. La disruption. Mais vous êtes président du Cercle du Coin. C'est ça, association
Exactement.
Communautaire pour la démocratisation du Bitcoin. Et vous avez publié cette année avec l'économiste Jacques Favier un ouvrage sur le Bitcoin, la monnaie acéphale.
Banquier historien.
D'accord,
très bien. Je voudrais pas.
Aux éditions du CNRS, on va y arriver, pas de problème. Et enfin, notre troisième invité est avec nous depuis les studios de Lyon à Radio France. Bonsoir Stanislas Jourdan.
Bonsoir.
Vous êtes directeur du Bureau européen de Positive Money. C'est une ONG basée à Londres et à Bruxelles qui milite, je reprends les mots qu'on peut lire sur le site de l'ONG, pour la mise en place d'un système monétaire et bancaire juste, durable et économique. Alors, démocratique. J'ai posé donc les bases de ce qui nous est arrivé ce week-end en ce qui concerne la question du Bitcoin. On a parlé vendredi dernier de vendredi noir, une brutale chute de 45% de sa valeur en une semaine. Le Bitcoin coté autour des 20 000 dollars il y a une semaine avant de tomber à 11 900 dollars vendredi. Pire chute, dit-on, depuis 2013. Aujourd'hui, on observe une petite remontée. Le Bitcoin est une monnaie plutôt instable et elle n'en est pas à sa première chute. Et là, pourtant, on voit poindre partout cette même question depuis quelques jours. Est-ce que la bulle du Bitcoin va éclater? Est-ce que vraiment, aujourd'hui, cette monnaie électronique vit un moment particulier, Ludovic Desmet?
Oui, je pense que c'est un peu un test en ce moment, parce que le Bitcoin est en train d'être connecté au marché financier dominant. Hein, et après une première phase d'expérimentation, c'était simplement une monnaie qui exerçait en circuit fermé. Ensuite, elle a été ouverte et on a permis les transactions avec dollars, euros, etc., etc. Et on est un peu dans la troisième phase d'expérimentation où des bourses comme celle de Chicago, etc., commencent à lancer des produits dérivés sur les bitcoins, où on commence à faire des introductions en bourse pour des sociétés jeunes, des startups, etc., en bitcoin. Donc là, vraiment, on a un moment crucial, je pense, qui va décider dans les semaines ou dans les mois qui viennent de la survie ou pas du bitcoin. C'est comment elle se connecte à ces marchés financiers qui ont des poids quand même assez gigantesques. Et est-ce qu'on fait pas un peu porter trop de poids à cette monnaie qui n'était pas faite pour ça au début? Si on lit vraiment le texte qui a donné lieu à la création du Bitcoin en 2008-2009, on ne parle jamais de finance. On ne parle que de moyens de paiement alternatifs.
D'échange, oui.
Et là, on a les grandes banques, les grands marchés boursiers, on a tout un ensemble d'intermédiaires qui se branchent dessus, alors qu'il n'est pas du tout conçu pour ce genre d'usage.
Le
papier dit juste que c'est une monnaie qui doit être libre d'accès, et qui dit libre d'accès, entre guillemets, et ça c'est dans la philosophie crypto-anarchiste de base du Bitcoin, dit que n'importe qui peut y accéder, donc là, autant le monde de la finance que les citoyens.
Oui, mais est-ce que le Chicago Mercantile Exchange est crypto-anarchiste?
Je pense pas.
Le problème qui est posé aujourd'hui, c'est justement que des grandes places financières commencent à s'en emparer, notamment à s'y intéresser, notamment pour la valeur spéculative du Bitcoin. Est-ce que vous êtes d'accord avec cela, Stanislas Jourdan? Qu'on fait aujourd'hui porter un peu trop à cette monnaie électronique, ce qui expliquerait cette instabilité que l'on observe en ce moment.
Alors oui, tout d'abord, moi je voudrais peut-être replacer un peu, je pense, l'histoire de la naissance du Bitcoin. Je pense que c'est une monnaie, c'est une expérimentation monétaire en fait à la base qui est issue, on va dire, d'un mouvement quand même de contestation ou de reprise en main, on va dire, de la monnaie par les citoyens. Ça rentre, je pense, dans un contexte du développement des monnaies alternatives, des monnaies locales, et aussi d'un débat académique de plus en plus important sur finalement la création monétaire, le rôle des banques centrales, etc. Donc on est dans ce contexte-là, et finalement Bitcoin n'est qu'une expérimentation parmi tant d'autres de nouveaux modèles de monnaie. Alors, à mon sens, une expérimentation échouée d'un modèle monétaire, on va dire, libertarien. On pourra revenir pourquoi je pense que c'est un échec, mais voilà, pour moi, c'est effectivement qu'une expérimentation et c'est pas un succès.
Alors, on a l'impression, quand on regarde la valeur du Bitcoin depuis le début de son histoire en 2008, que cette valeur a décollé assez vite, qu'assez vite elle a échappé aux attentes de ceux qui en avaient, qui en créaient. Adly Takalbatay, vous parlez dans votre livre Bitcoin, la monnaie acéphale, que vous avez co-signé avec Jacques Favier, des tout premiers Bitcoins qui coûtaient 0,008$ et dont les échanges se réalisaient moins d'une semaine après à 10 fois le prix. À chaque fois, il s'agit de hausses brutales, de baisses tout aussi rapide. Est-ce que c'est notamment la confiance qu'on a mis au centre de ce système de pair à pair, préservé d'une quelconque autorité bancaire et étatique, qui a fait monter la valeur du Bitcoin aussi vite?
En effet, le fait de ne voir faire confiance à personne sauf au réseau et à son protocole est un grand gage de confiance. La deuxième chose, c'est que Bitcoin est une monnaie substantielle, comme l'or en quelque sorte, dans le sens où un Bitcoin sera toujours un Bitcoin, là où un billet de 5 euros ne sera peut-être pas un billet de 5 euros dans 15 ans. Donc ça, c'est extrêmement important. Et la deuxième chose, c'est que Bitcoin est très rare, donc il n'y en aura que 21 millions. Donc ça joue aussi forcément dans sa valorisation. Et Bitcoin est très lié à l'actualité qu'il va avoir, vu que c'est une monnaie naissante. Et du coup, son augmentation est aussi liée à son effet de réseau. Donc de plus en plus, c'est pour ça aussi que son augmentation est probablement exponentielle, parce que plus on en parle, plus de gens peuvent en parler, et du coup, on est sur le même mécanisme d'effet de réseau que peut avoir un réseau social ou autre.
Il faut rappeler aussi que cette monnaie est limitée à 21 millions
d'unités en 2140.
On en est à 16 700 à peu près. Donc plus on va approcher de la valeur limite, plus cette monnaie va poser problème.
Oui, la monnaie est déflationniste, donc elle a pour but de créer de la rareté. Alors on peut critiquer ça ou pas. C'est un choix d'architecture dans le protocole de Bitcoin, et ça lui permet de prendre de la valeur assez rapidement.
Alors Ludovic Desmet, vous l'avez affirmé, et d'ailleurs vous venez de le redire en ce début d'émission, mais vous le martelez dans l'un de vos articles publiés dans Alternatives économiques, qu'aujourd'hui le Bitcoin fonctionne bien plus comme un actif permettant de spéculer que comme un moyen de paiement. Est-ce que ça veut dire qu'avec n'importe quelle monnaie électronique, que ce soit le Bitcoin ou une autre qui existe, même avec des règles de départ plus souples et égalitaires que celles qui ont régi le Bitcoin, ça pourrait poser les mêmes problèmes? Est-ce qu'on a du mal aujourd'hui à se départir justement de la spéculation, de l'autorité bancaire?
Oui, parce qu'on a du mal en fait. Le problème de fond, c'est de caractériser ce que certains appellent un actif, ce qu'on peut assimiler à l'or, est-ce que c'est une vraie monnaie, etc., etc. Alors on a un peu dépassé ce stade-là, mais on en revient toujours à la même ambivalence en fait. Est-ce que on a quelque chose de purement monétaire ou purement financier? Et moi, j'ai l'impression que depuis, je trouve que je suis fasciné par le papier de Nakamoto, là.
Le créateur
mythologique, d'ailleurs, ça serait plutôt des créateurs, a priori. Bon, c'est un pseudonyme, on ne sait pas qui est derrière, etc., etc. C'est un papier qui est extrêmement brillant, qui fait 9 pages et qui propose un système vraiment alternatif. Et bon, c'était des choses qui étaient dans les tuyaux des milieux crypto-anarchistes depuis des années, mais bon, il réussit à proposer ça en pleine crise financière. Donc là, il a un sens du timing assez phénoménal, et en janvier 2009, il est le premier à utiliser Bitcoin, et puis petit à petit, de manière virale, ça va se diffuser. Mais je trouve qu'on a totalement oublié ce modèle de base aujourd'hui, quand des gens, enfin la veuve de Carpentras comme on dit, c'est-à-dire des gens simplement parce que la valeur augmente, achètent et n'adhèrent pas du tout aux valeurs, disons, ou au schéma de départ. J'ai l'impression que c'est en train d'échapper. Et du coup, là.
Y compris les banques, d'ailleurs.
Oui, du coup, l'aspect financier est en train de dominer totalement et en train de faire oublier le. Je pense que la vraie nouveauté, c'est plutôt ces histoires de blockchain et de paiement de pair à pair.
Donc, le blockchain, je précise pour nos auditeurs, c'est un registre dans lequel sont enregistrées toutes les transactions par Bitcoin qui permettent d'en garder une trace.
C'est une partie de son protocole.
Voilà.
On peut faire un réseau de paiement sans centralisation, ce qui contrevient quand même à tout ce qui s'est passé depuis des siècles dans le domaine monétaire. Mais moi, j'ai l'impression que l'aspect spéculatif, le motif de spéculation, comme disait Keynes, est en train de l'emporter, est en train de phagocyter, en fait, la question du moyen de paiement. Parce que si vous avez un bitcoin le matin qui vaut 10 000 dollars et le soir 11 000 dollars, vous n'allez pas l'utiliser pour acheter quelque chose. Vous allez le garder. Et vous allez attendre qu'il passe à 12 000 ou à 13 000. Et donc, du coup, j'ai l'impression que ça stérilise complètement l'aspect de départ qui était un moyen de paiement.
D'ailleurs, ce que vous dites à propos de ces grandes places boursières, de la valeur spéculative qui ne cesse d'augmenter, on le voit la semaine dernière, des responsables britanniques et américains ont déclaré que le bitcoin ne représentait pas une menace pour la stabilité financière mondiale. Avant cela, la bourse de Chicago a lancé des contrats à terme sur le bitcoin, c'est-à-dire une opération qui comporte un engagement d'achat à une date et à un prix fixé à l'avance. Et puis, il y a aussi la banque américaine Goldman Sachs qui a annoncé vouloir se lancer dans le trading de Bitcoin. Qu'est-ce que ça impliquerait, par exemple, cette opération sur la stabilité de cette monnaie, le fait que ces grandes places financières s'accaparent finalement? Je vais interroger Stanislas Jourdan sur cette question, pour commencer.
Alors, moi, je ne suis pas un spécialiste de la stabilité monétaire, mais il me semble que à court terme, cette histoire de Bitcoin, c'est l'écume de la vague. Quoi qu'il se passe avec que le Bitcoin crash ou non, enfin c'est vraiment pas, je pense, un objet de grand risque systémique. Par contre, ce qu'il faut comprendre, c'est que le risque, c'est qu'il y a pas que Bitcoin en fait, c'est qu'il y a Litecoin, il y a Ethereum, il y a plein d'autres monnaies. Et en fait, le problème, c'est que ce qui pend au nez des banquiers centraux, qui en fait n'ont pas innové, parce que dans cette histoire, même si je suis plutôt contre le Bitcoin, il faut reconnaître que Bitcoin est la plus grande innovation monétaire, je pense, depuis 20 ou 30 ans. Notamment grâce au blockchain, comme c'était expliqué juste avant. Et donc, mais le risque, c'est qu'il y ait plein d'autres monnaies qui soient beaucoup mieux que le Bitcoin, parce que je pense qu'on peut faire beaucoup mieux que le Bitcoin. Et le problème, c'est qu'à la prochaine crise financière, les gens n'auront cette fois plus du tout confiance dans les banques, et ils vont transférer leur argent en dehors du système bancaire sur d'autres monnaies que le Bitcoin. Et à partir de là, on aura un vrai problème pour la stabilité financière, puisque les banques feront potentiellement faillite. On assistera à un bank run à grande échelle. Donc voilà, pour moi, le vrai risque, mais il n'est pas tout de suite.
Mais alors, justement, vous pointez ce point important dans la question qu'on traite ce soir, qui est justement la diversité de toutes ces monnaies électroniques. J'ai lu quelque part qu'il y en avait près de 500. Je ne sais pas si vous me confirmez.
Même plus, on est proche de 2000 en termes de jetons numériques. Ouais.
Eh bien, qu'est-ce que ça implique dans un système financier d'avoir autant de valeurs différentes? Parce que, par exemple, j'ai entendu parler du Freecoin, du Litecoin, qui sont pas du tout pareils, qui sont pas du tout calqués sur le même modèle que le Bitcoin, qui ont quand même des subtilités importantes. Qu'est-ce que ça implique dans un système financier? On peut plus parler de système financier global.
Pour moi, il y a la majorité des crypto-monnaies, entre guillemets, sont de l'ordre de la copie ou de l'expérimentation. Il y avait un papier très intéressant qui disait, si nous considérions toutes les crypto-monnaies comme des tests du nouveau protocole Bitcoin, peut-être qu'on leur donnerait pas de valeur et qu'on les verrait vraiment comme des monnaies de laboratoire. Donc je pense que c'est pas négatif en soi parce que ça crée de l'innovation, mais en revanche je pense que c'est pas durable parce qu'actuellement ces monnaies elles sont pas interopérables, on peut pas passer d'une à l'autre sans passer par une plateforme d'échange ou par du moins en tout cas un organisme qui centralise les fonds et donc qui peut être attaqué de part et d'autre par des gens. Donc pour moi, le modèle qui est actuel est horizontal avec plein de compartiments, plein de petites crypto-monnaies avec des protocoles différents qui parfois changent très peu de Bitcoin. Hein, c'est vraiment plutôt pour la déco. Le Litecoin change vraiment pas grand-chose par rapport à Bitcoin actuellement. Et on va passer sûrement à un modèle qui...
Il y a juste une plus grande masse monétaire, ce qui...
Oui, ça augmente la masse monétaire globale avec Bitcoin qui pèse quand même plus de 50% depuis un bon bout de temps maintenant. Enfin, même s'il était il y a deux ans à 80% de tout ça. Donc Bitcoin reste entre guillemets la monnaie étalon de ces nouvelles monnaies dans le cyberespace. Mais ce qu'il faut bien penser, c'est que viendra peut-être le moment, et actuellement c'est ce qui est fait dans Bitcoin avec l'amélioration du protocole de l'été dernier, c'est de permettre les méta-réseaux sur Bitcoin. Donc c'est, pour résumer très simplement, c'est réussir à se servir de Bitcoin pour émettre d'autres monnaies, émettre d'autres jetons, émettre d'autres modèles. Il y a même la Bank of Canada, par exemple, qui avait suggéré l'idée d'un étalon Bitcoin comme on a eu l'étalon or. Donc bien sûr, c'était pas leur but du tout actuellement, mais en tout cas, ils le concevaient, ils l'imaginaient. Et ces méta-réseaux pourraient même permettre aux banques centrales d'émettre, c'est sûr. Et quand on voit la valeur qu'a Bitcoin et que peut prendre Bitcoin, on peut se dire que pour des petits États, ça pourrait être un pari.
Ludovic Desmet, sur cette question.
Oui, on vit une époque quand même très, très intéressante parce que, dans l'histoire, on a vécu des périodes comme ça où on a une multiplication des moyens de paiement avec une espèce de concurrence à celui qui aura la part de marché la plus importante. Et puis, à un moment donné, généralement, on a quand même une stabilisation des choses et on passe de la concurrence à la complémentarité. Il y a une expérience, par exemple, qui est assez bien documentée maintenant, c'est les banques dans la deuxième moitié du 19e siècle aux États-Unis où on avait une multitude de banques qui émettaient des billets, qui avaient un espace de circulation très restreint de 20 ou 30 kilomètres. Et puis, il y avait beaucoup d'affaires frauduleuses là-dedans. Quelqu'un partait avec la caisse métallique, avec l'or et l'argent, et allait se réinstaller à 50 km plus loin, etc., etc. J'ai l'impression qu'on est en train de vivre ça. Et à un moment donné, et les Américains ont mis beaucoup de temps, puisque c'est la banque centrale la plus puissante aujourd'hui, mais c'est une des plus récentes. La Réserve fédérale a été mise en place en 1913 pour essayer de calmer un peu cette compétition qui a croissé le désordre de manière assez, assez phénoménale. Et j'ai l'impression que dans le cyberespace, on vit un peu ce qu'ont vécu les États-Unis, par exemple, au 19e ou même l'Europe un peu plus avant. C'est-à-dire que voilà, on a une multitude de supports qui circulent et à un moment donné, il va falloir articuler ça. Et justement,
comment
la standardisation. Pour moi, c'est...
Ouais, et puis je pense que les banques centrales, effectivement, la Banque du Canada, mais elles sont énormément présentes sur le terrain. La Banque de Finlande, la Banque d'Angleterre, la Banque de France même.
Mais donc ça impliquerait un retour assumé du secteur bancaire, des institutions financières dans le Bitcoin, alors que
dans la blockchain, je pense. En tout cas, dans le Bitcoin.
Dans le principe de base, c'était vraiment un système qui se construisait en marge.
C'est le paradoxe, mais c'est aussi un peu historiquement. Les banques centrales existent depuis 3, 4, 5 siècles. On a généralement, à un moment donné, on a eu ça aussi au moment des circulations des lettres de change au Moyen-Âge, et à un moment donné, il a fallu harmoniser toutes ces lettres de change qui étaient de statuts différents, de signatures différentes, de commerçants différents, et à un moment donné, on unifie ça. Alors, c'est pas que la centralisation, c'est l'alpha et l'oméga de la loi monétaire, parce qu'il y a de la complémentarité. Ouais. Et on voit très bien, d'ailleurs, avec les monnaies locales aujourd'hui, elles existent en complément et on aura peut-être une cohabitation de ce type-là dans le domaine des
Le choix de Bitcoin, le choix de pouvoir utiliser Bitcoin ou non et d'être centralisé ou non est irrévocable en quelque sorte.
Stanislas Jourdan, sur cette question, vous vouliez intervenir.
Oui, je crois qu'il y a de la place pour la diversité monétaire, mais c'est vrai qu'il y a un moment, comme le disait Ludovic, où il y a un moment où il y a besoin de standardiser. Et en fait, la monnaie, c'est un protocole d'échange, donc c'est comme le langage finalement. On a besoin d'un langage pour communiquer. Donc il y a un moment où on peut pas non plus parler 15 langues en même temps tous les jours. Donc en fait, il y a une tendance de la monnaie à devenir un monopole naturel, ce qui est logique en fait. Et ce qui permet aussi de pointer du doigt le fait que finalement le problème de cette question de la monnaie, c'est que la monnaie c'est aussi un objet politique en fait. Ça fait partie des pouvoirs souverains de l'État, ça fait partie de ce que les citoyens partagent en tant que nation. Quand on parle de Bitcoin, etc., au final, le rêve, et à mon avis l'illusion de Bitcoin, c'est de dire qu'on va résoudre cette question de la monnaie par une question technologique, par une simple question d'algorithme. On va trouver l'algorithme magique. Et donc, ça va résoudre toutes les crises bancaires, monétaires, etc. Je pense que c'est une fallacie. La monnaie, c'est aussi un objet politique. Et donc, il faut qu'il y ait une démocratie derrière tout ça. Et en fait, Bitcoin, c'est pas une démocratie. C'est ce que disait tout à l'heure. Enfin, on voit un espèce de retour du Far West monétaire, en fait. Et donc, il faudra bien un moment où les États reprennent ça en main.
On va revenir sur cette question importante. Mais juste avant cela, on parlait de standardisation de ces monnaies électroniques. Et justement, il se trouve que sur le site de Positive Money, Stanislas Jourdan, il y a un billet intitulé « The Future of Cash », le futur de la monnaie, traduction un peu grossière, je vous l'accorde, et où vous pointez en fait le caractère exclusif de la monnaie électronique, vu le cours du Bitcoin, vu la difficulté que ça peut être pour la plupart d'entre nous, sans bagage informatique. Comment est-ce que tout un chacun en fait peut avoir son petit pécule de monnaie électronique, comment démocratiser en fait le Bitcoin? Et donc vous, enfin vous, pas vous personnellement, mais en tout cas dans votre ONG, on dit la Banque d'Angleterre, puisque c'est une ONG basée à Londres en partie, a un rôle à jouer dans la création et dans l'utilisation des monnaies électroniques pour ne pas laisser les banques privées s'en emparer, c'est ça, entre autres?
Oui, les banques privées, mais aussi, enfin, comme je disais, on assiste à un espèce de Far West, et donc il y a un moment donné où, en fait, on est en train de revivre ce qu'effectivement, ce qui a été pointé tout à l'heure, hein, on est en train de revivre l'épisode du 19e siècle où les banques se faisaient concurrence en émettant différents types de monnaie. Et donc concrètement, aujourd'hui, on a le même risque. Et finalement, on a le risque de complètement de complètement confier la monnaie à des entités privées. Alors qu'aujourd'hui, on a quand même des banques centrales qui sont plus ou moins sous le contrôle
qui ne sont même pas fiables,
des parlements.
En plus. C'est...
Et qui ne sont pas forcément fiables, il peut y avoir des arnaques, etc. Donc nous, ce qu'on propose, en fait, c'est que les banques centrales, on propose que les banques centrales émettent leur propre monnaie digitale publique. Ce qui serait, en fait, imaginez concrètement que tout le monde puisse avoir un compte bancaire à la Banque de France ou si vous êtes en Allemagne, à la Bundesbank. Et donc, vous auriez, chaque citoyen aurait droit à un compte en banque universel avec de la monnaie, en fait, de la monnaie centrale. Parce que c'est ça la vraie innovation du Bitcoin, c'est de créer, c'est de rendre accessible une monnaie qui est de la monnaie qui n'est pas basée sur la dette. Puisqu'il n'y a pas de système de réserve fractionnaire en fait, dans le Bitcoin. Il n'y a pas de banque qui crée de la monnaie par du crédit. Et donc nous, on propose que les banques centrales, aujourd'hui, donnent accès aux citoyens, à tout le monde, à de la monnaie, de la vraie monnaie virtuelle, mais qui soit vraiment basée sur l'euro, basée sur le cours légal. Et en fait, ce serait une vraie innovation, une vraie modernisation du système bancaire qui aurait plein d'impact, qui simplifierait le système de paiement sur la base du modèle du blockchain, par exemple, mais qui permettrait également d'assurer une inclusion financière pour tous, puisque chacun aurait droit à ce compte en banque.
Et pourquoi les banques centrales n'y ont pas pensé, par exemple, à
elles
ça
y pensent, Elles y pensent. La question que souligne Monsieur Jourdan, elle est très juste, sauf que aller dire aux banques privées que tout le monde va avoir accès à la monnaie centrale et qu'elles ne peuvent plus faire de réserve fractionnaire, c'est un projet politique qu'il faut tenir et qui je pense est très très difficile à tenir. Là où est juste sur le côté privé, parce qu'on parle de la banque centrale et du côté public, je pense que Bitcoin est pas une monnaie privée, c'est avant tout une monnaie justement publique. Bitcoin est un bien commun pour moi. Enfin, on a tous accès à Bitcoin justement parce que son code est libre et parce qu'il est incensurable et non discriminant. Alors après,
non discriminant, ça se discute quand même.
Il y a cet aspect technique, mais c'est comme tout protocole.
Il y a quand même une éducation au Bitcoin,
au codage,
au minage.
C'est comme tout protocole informatique. Je veux dire, est-ce que vous savez exactement comment Internet marche et le web,
la suite protocolaire du Bitcoin, en tout cas.
Mais pas forcément. C'est ça qui est dingue, c'est que l'interface utilisateur nous rend les choses faciles à utiliser. Et dans Bitcoin, vu qu'il n'y a pas d'entreprise derrière Bitcoin vraiment, forcément, la guerre de com, elle se fait à travers des petites mains comme nous dans l'association ou autre, qui pensons que c'est une bonne chose, elle va se faire à travers des gens qui vont essayer de créer des applications, parfois en faisant du profit, parfois en faisant pas de profit. Mais en tout cas, toute cette communication finalement, et toute cette éducation, tout cette expérience utilisateur, elle va être faite par des gens qui y croient avant tout, et ça va prendre du temps, entre guillemets, pour que on puisse avoir des usages qui soient facilités pour tous. Et il y a un autre problème, c'est la réglementation qui freine aussi l'accès et la facilité, entre guillemets, de mettre en avant Bitcoin quand on voit qu'on se fait fermer un compte Bitcoin on peut se faire fermer son compte en banque parce qu'on va dire à son banquier qu'on a un business dans le Bitcoin. Ce qui est quand même un peu gênant pour pouvoir démocratiser quelque chose, justement.
Ludovic Desmet, on parle d'un contexte de division. Stanislas Jourdan employait même le mot de Far West. Est-ce qu'aujourd'hui, le Bitcoin est en train de nous échapper?
Peut-être que pour bien comprendre le Bitcoin, il faudrait relire Lucky Luke, oui, effectivement. Mais deux petits points quand même sur le Bitcoin comme bien commun. Bon, ça, c'est le projet de départ. J'ai l'impression, comme disait un peu Stanislas Jourdan, qu'on a quand même Maintenant, pour avoir la puissance de calcul qui est nécessaire pour obtenir les 12,5 bitcoins qui sont générés automatiquement sur le réseau toutes les 10 minutes, c'est pas avec un petit PC qu'on arrive à avoir ça. Donc on a quand même une recentralisation et c'est à celui qui a la puissance de calcul la plus puissante qui peut gagner. Mais sur l'histoire du scénario, moi je trouve pas ça non plus l'histoire des banques centrales qui distribueraient ça directement aux agents économiques, ça fait partie des trois scénarios en fait sur lesquels travaillent les banques centrales. Ils appellent ça CBDC, Central Bank Digital Currency. Il y a trois scénarios, comme on dit. On a soit une digital monnaie qui circulerait entre banques centrales, qui serait une espèce de réserve réservée aux banques centrales. On a un deuxième scénario qui la blockchain emprunterait les circuits traditionnels. Ça, c'est un peu moins à la mode, mais on travaille aussi au sein des banques centrales.
C'est-à-dire que la blockchain emprunterait les circuits traditionnels.
C'est-à-dire qu'on servirait, on aurait un système hiérarchisé, mais on décentraliserait un peu plus, mais on garderait les banques commerciales. Et le troisième scénario, c'est on zappe les banques commerciales. Et ça, c'est on peut pas l'exclure non plus. Et c'est un des scénarios qui est travaillé dans les banques centrales.
C'est-à-dire pour aboutir à quel cas de figure?
Pour aboutir à quelque chose de beaucoup plus plat en fait, où on enlève un étage en fait, puisque le système traditionnel, c'est banque centrale au sommet, banque secondaire, enfin banque commerciale disons au deuxième étage, et ensuite le public. À la fois les agents privés, les entreprises, et ces digital currencies là permettraient. Alors c'est un des scénarios. Encore une fois, on prend pas en compte le lobby bancaire, etc., etc. Mais ça peut être mis en place.
France Culture, du grain à moudre, Émilie Chaudet.
Les monnaies électroniques vont-elles nous ruiner? On étudie cette question avec l'économiste Ludovic Desmet, Adlita Kalbataï, président du Cercle du Coin, et Stanislas Jourdan de l'ONG Positive Money. Alors, pour éviter ces sursauts qu'on vient de voir se produire ce week-end quant au Bitcoin, on peut se poser la question comment prendre ou reprendre le contrôle, poser la question de quel contrôle monétaire on est prêt à accepter quand on utilise une monnaie électronique. Et les autorités politiques prennent la parole à ce sujet. Il y a eu le maire Les Républicains de Compiègne, Philippe Marini, qui est cité aujourd'hui dans Le Parisien. Il a écrit un rapport sur le Bitcoin. Et selon lui, il pointe donc la nécessité d'une loi européenne pour encadrer son usage. On peut aussi citer Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, qui veut pousser à un débat lors du prochain sommet du G20. Mais pour autant, quelle forme peut prendre un encadrement politique du Bitcoin, Adlita Kalbataï?
Enfin, pour moi, la première question à se poser, c'est est-ce qu'on encadre le dollar en France? Donc on peut pas réguler le dollar, on peut pas réguler une monnaie étrangère. Bitcoin, c'est un peu la monnaie de la lune ou du cyberespace. En tout cas, c'est une monnaie qui est partout à la fois et qui est nulle part en même temps, donc qui est en tout cas étrangère. Et la question à se poser, c'est bon, la réguler, c'est complexe. En tout cas, on peut notamment sur des points comme la fiscalité, comme enfin certains points, on va pouvoir qualifier Bitcoin par rapport à un usage qui a été fait. Si on se sert de son protocole pour envoyer des documents et les conserver à vie, on rentre dans un tel cas d'usage. Et finalement, tout existe quasiment dans la loi, dans le sens où il suffit de trier les usages qui sont faits de Bitcoin. Si j'utilise des Bitcoins pour faire des choses illicites, je serai tout aussi condamnable. Et quand on se voit la question de la régulation, entre guillemets, le plus important, c'est plus de rassurer déjà sur l'usage de Bitcoin et de dire qu'il y a des choses, il y a beaucoup de choses dans la loi déjà qui permettent d'encadrer Bitcoin et ses usages.
C'est pas tellement la tonalité politique du moment.
Voilà, mais c'est assez étonnant parce que finalement, le plus important, c'est les usages de Bitcoin et pas Bitcoin en soi. Parce que Bitcoin, justement, est protéiforme. C'est pour ça que dans le livre, on dit notamment que c'est une métamonnaie parce que c'est un peu soit la monnaie d'après, soit la monnaie de tout le reste. C'est-à-dire que c'est une monnaie et autre. Donc, on pourra pas le classifier ad vitam. Soit on le met dans une nouvelle catégorie qui va être très difficile à identifier, soit on classe ses usages et là on n'a aucun problème vu qu'on a déjà les usages financiers de Bitcoin et autres et métafinanciers sont déjà régulés.
Stanislas Jourdan, quel rôle doit avoir la parole politique? Est-ce qu'une réglementation politique s'impose quant au Bitcoin?
Alors moi, je pense que l'idée de réguler Bitcoin, c'est un peu comme l'idée de réguler, comme on le disait à l'époque, le piratage sur Internet, etc. Je pense que c'est largement une illusion. Comme l'a dit tout à l'heure l'intervenant, Bitcoin, c'est comme une monnaie étrangère. Hein. Si on régule Bitcoin, il y aura une autre monnaie qui apparaîtra, etc. Donc je pense que la vraie réponse, c'est d'améliorer l'euro, c'est d'améliorer la monnaie officielle que tout le monde utilise, c'est de réformer l'euro, d'avoir des banques centrales plus démocratiques, d'avoir des politiques monétaires qui soient plus égalitaires, qui soutiennent les peuples, au lieu de faire ce que l'a fait la BCE pendant la crise grecque, etc., à étouffer encore plus certaines populations. Donc il y a plein de choses à faire pour en fait rendre l'euro, pour s'assurer que les gens ont continue d'avoir envie d'utiliser l'euro, tout simplement. Aujourd'hui, il y a, je crois, la moitié des citoyens en zone euro qui ne font plus confiance à la BCE, à la Banque Centrale Européenne. Donc la vraie réponse, c'est ça, c'est de réformer le système monétaire officiel et de le rendre plus performant pour le bénéfice de tous.
À propos des inégalités, Stanislas Jourdon, vous dites que le Bitcoin crée des inégalités là où il n'y en a pas.
Oui, c'est très simple. Le Bitcoin, c'est comme si vous jouiez à Monopoly. Sauf qu'en fait, le premier joueur qui rejoint le Bitcoin, il gagne donc 20 000 euros en passant par la case départ. Le deuxième, il gagne que 10 000 euros. Et puis le troisième, il faut qu'il mette 200 euros sur la table pour avoir 5 000 euros de billets de banque de Monopoly. Donc en fait, ceux qui arrivent plus tard dans le processus de cette création du développement de cette monnaie, en fait, doivent arriver avec une dette vu qu'il faut acheter des bitcoins, alors que les premiers qui ont utilisé Bitcoin en ont créé gratuitement énormément. Donc en fait, aujourd'hui, si on regarde les statistiques, 30% de la masse monétaire de Bitcoin est détenue par 1000 personnes. Donc en fait, c'est une monnaie complètement inégalitaire. Et donc, et c'est pour ça que moi je dis à tous mes amis, n'achetez pas du Bitcoin. Vous vous faites avoir par rapport aux premiers entrants. C'est pas une monnaie égalitaire.
Alors aujourd'hui, il y a un conflit à régler que vous pointez, Ludovic Desmet, dans l'un de vos articles paru dans la Revue de la Régulation. Vous dites qu'aujourd'hui, le Bitcoin donc, est avant tout une marchandise, un actif, et que ça crée des tensions entre ceux qui croient encore en l'avènement du Bitcoin comme une nouvelle monnaie et ceux qui craignent l'absence d'une protection de l'État. Comment est-ce qu'on peut sortir de cette tension aujourd'hui ?
J'ai l'impression que le Bitcoin, comme je disais au début, supporte peut-être un peu trop de poids sur ses épaules et qu'il faudrait un peu répartir. D'ailleurs, quand je parlais des essais des banques centrales, la Banque de France essaye d'instaurer un système de règlement en ce moment, mais c'est basé sur l'Ether ou l'Ethereum, je ne sais plus comment on dit.
Copie privée en plus.
Copie privée, mais en fait, on fait des boutures. C'est-à-dire qu'on a un arbre et puis on bouture cet arbre et on peut en faire ce qu'on veut. Et donc, on peut avoir une réappropriation, alors, soit par les banques centrales, soit par des systèmes associatifs. On a aussi des expériences de Faircoin qui sont plus égalitaires, comme disait Stanislas, c'est-à-dire qu'on distribue en début de partie, en quelque sorte, un pécule aux échangistes, en fait, et on à partir de là, on échange ça. Mais je pense que le Bitcoin a pris une telle, c'est quand même un phénomène assez extraordinaire auquel on assiste quand même assez peu dans l'histoire monétaire et financière. C'est quelque chose qui a dépassé totalement le pronostic de même des plus confiants en début 2009, quoi. Vraiment, c'est encore une fois 9 pages qui sont balancées sur Internet de manière anonyme et en gros vous jouez si vous voulez. Et aujourd'hui, c'est le placement spéculatif et c'est la bourse de Chicago qui se branche dessus, etc., etc. Donc, il y a une contradiction, je pense, dans ce système et il faudrait peut-être bouturer un peu plus pour refaire prendre à l'arbre une forme peut-être un peu plus coopérative.
Mais qui serait le jardinier, si je file votre métaphore ? Qui pourrait être
Alors, je ne pense pas que ça soit qu'on puisse laisser les gants et la cisaille à Goldman Sachs, hein, je pense que oui, comme le disait Stanislas, c'est peut-être aux citoyens de se bouger un peu et de redémocratiser tout ça, puisque après tout, on est quand même partie prenante. J'ai l'impression que c'est plutôt un jeu qui va se jouer entre les banques centrales et les agents pour aller vite. J'ai pas l'impression que les banques traditionnelles soient bien outillées pour gérer cette transformation, si transformation il y a.
Stanislas Jourdon, vous voulez intervenir ?
Très rapidement, oui, je pense que la métaphore du jeu, c'est bien qu'on la continue, parce qu'en fait, pour moi, justement, c'est là le où je pense qu'on n'est peut-être pas d'accord avec entre les pro-bitcoin et les contenus. C'est que la monnaie, c'est pas juste un jeu. Je veux dire, quand on n'a pas de monnaie, on est dans la rue, on crève de faim. Donc, c'est pas juste un jeu, cette affaire. Donc, s'il y en a qui veulent jouer au bitcoin, c'est très bien, qu'ils perdent leur argent ou qu'ils gagnent, tant mieux pour eux ou tant pis. Mais quand on parle de bitcoin comme la monnaie que tout le monde devrait utiliser, c'est complètement une erreur, puisque en fait, ça résumerait à avoir un jeu qui est complètement faussé dès le départ avec des dés qui sont pipés.
Pourquoi vous dites ça ?
Bah, je dis ça pour dire que, encore une fois, cette histoire de monnaie, c'est plus que simplement un truc technique où on va jouer entre nous. La monnaie, pour moi, ça a un sens beaucoup plus sacré, où c'est quelque chose qui nous permet tous, en tant que citoyens, de participer à un système économique.
Alors, oui, allez-y, je vous en prie, pardon.
Non, mais je pense que j'ai à peu près tout dit. Je pense que c'est beaucoup plus sacré que ça.
Vous parlez en tout cas...
C'est à la démocratie de reprendre la main là-dessus.
Vous parlez en tout cas, tous les deux, Ludovic Desmet et vous, Stanislas Jourdan, du citoyen et du rôle qu'il a à jouer dans l'aventure Bitcoin, si on peut le dire comme ça. Mais il y a cette question centrale et que vous pointez, Adlita Kal Bataille dans votre livre, à la fin de votre livre, et d'ailleurs, je pense que ça vient peut-être un peu trop tard, cette question, c'est celle de l'éducation à la production et à l'utilisation du Bitcoin. L'éducation, vous dites, a dû s'adapter. Là, vous vous placez en 2050, vous faites un peu de science-fiction à la fin de votre livre. L'éducation a dû s'adapter, même en France, et j'aime bien ce même en France, de telle sorte que les adultes en 2050 sont correctement formés à utiliser les protocoles décentralisés et même à gérer leurs clés. C'est là des enjeux majeurs, si on ne trouve pas un protocole de minage à la fois à la portée de tous et suffisamment sécurisé pour éviter les hold-up.
Bien sûr, la clé de voûte de tout ça, pour moi, c'est un peu l'identité. Et l'identité, ça se gère par des jeux de clés privées, clés publiques, en termes techniques. En tout cas, si on veut avoir un système d'identité décentralisé, il faudra qu'on passe par là ou qu'on invente autre chose. J'ai pas de boule de cristal. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que finalement, Bitcoin est un premier pas pour moi parce qu'il prouve que ça marche. Entre guillemets, on peut avoir quelque chose à grande échelle qui ait un consensus décentralisé. Pour que ça devienne un consensus distribué, il faut pouvoir identifier les hommes au sein de ce réseau. Et pour identifier des hommes, il y a un moment, soit on passe par une autorité centrale qui dit « toi, 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 tu existes » et c'est bon, et soit on doit faire quelque chose avec un maillage pair à pair. Et ça, pour l'instant, c'est assez complexe, en tout cas en termes de règles. Ça se fait à petite échelle, mais à grande échelle, c'est difficile à définir. Et c'est pour ça que d'ailleurs que le consensus de Bitcoin est avant tout décentralisé et pas distribué. C'est-à-dire que c'est certains, ceux qui donnent leur puissance de calcul, qui vont pouvoir participer à ce consensus, alors que les gens qui sont uniquement... qui l'utilisent uniquement vont pas pouvoir participer à ce consensus. Tout en sachant, et ça c'est vraiment une parenthèse très importante, c'est dans le fait que Bitcoin a réussi par son protocole à créer un cercle vicieux de motivation qui va faire que le fonds de commerce des mineurs, donc ceux qui ont le pouvoir, ceux qui créent les bitcoins, ce sont les bitcoins et la valeur du bitcoin. Et donc en gros c'est un système où tout le monde doit entre guillemets écouter tout le monde, parce que si les mineurs jouent tout seuls, leur fonds de commerce perd de sa valeur. Donc en même temps, c'est un peu une dictature, c'est une dictature du peuple en quelque sorte, dans le sens où les mineurs ne peuvent pas jouer seuls, parce que sinon ils perdent leur fonds de commerce. Donc il y a quand même un subtil équilibre qu'a créé ce protocole grâce justement à cette motivation monétaire. C'est un cercle vertueux ou vicieux peut-être, parce que c'est l'argent qui le mène en tout cas, mais dans tous les cas, on a quelque chose où finalement tout le monde doit s'écouter et tout le monde doit aller dans la meilleure direction possible pour Bitcoin et pour les améliorations de Bitcoin. Parce que sinon il perd de sa valeur et tout le monde est un peu plus triste forcément.
Ce que vous décrivez à Clita Kal Bataille, on en est encore quand même assez loin de pouvoir identifier les personnes qui peuvent agir sur le terrain du Bitcoin. On en est encore assez loin. Là, on a plutôt l'impression qu'on peut identifier des institutions bancaires, des startups. On est assez loin du citoyen dans cette problématique du Bitcoin, Ludovic Desmet.
Ouais, mais la monnaie, encore une fois, est une institution et quand ça bloque, ça peut entraîner... On est assez peu loin du citoyen. Si on prend des cas extrêmes, comme en ce moment ce qui se passe au Venezuela, on a beau avoir un système bancaire qui distribue la monnaie officielle, on a beau avoir des lois, etc. Qu'est-ce que fait le citoyen vénézuélien en ce moment? Il rejette la monnaie officielle. D'où l'hyperinflation et d'où le recours au dollar, etc., etc. Donc, en cas extrême, on peut avoir ça. C'est pas du tout à citer comme exemple, etc., etc. D'ailleurs, Maduro, j'ai vu ce week-end, avait lancé une nouvelle monnaie digitale qui va s'appeler le pétro. Bon, c'est une espèce de course en avant, mais moi j'ai l'impression qu'on on avancerait en se débarrassant de toutes ces métaphores métalliques, nouvel or, etc., etc. Je relisais ce week-end un bouquin de Jack London sur la ruée vers l'or. Il dit que pour 20 millions de dollars, l'équivalent de 20 millions de dollars d'or extrait du sol du Yukon, on a dépensé 200 millions de dollars en billets de train, en billets de bateau, en pelle, en pioche, etc. Qui est-ce qui s'enrichit dans cette histoire-là? C'est les vendeurs de pelle et de pioche, ou les vendeurs de cartes graphiques. Donc il faudrait sortir un petit peu de ce piège qui nous emprisonne un peu et essayer de réfléchir de manière un peu plus posée. C'est la ruée vers l'or, c'est, voilà, ça n'enrichit que quelques-uns, et en tout cas pas les piocheurs.
Si je vous comprends bien, cette réflexion qu'on amène aujourd'hui sur le Bitcoin, elle nous permet surtout à se questionner sur le mode de gouvernance qu'on veut pour la monnaie que l'on utilise, que ce soit l'euro, le dollar, en tout cas les monnaies virtuelles. C'est presque un paradigme de réflexion sur le système bancaire qu'on veut aujourd'hui. Stanislas Jourdan, très rapidement.
Oui, exactement. Moi, c'est ça que moi j'admire avec le Bitcoin et que j'ai soutenu dès la première heure, c'est de dire c'est excellent cette histoire de Bitcoin, parce que ça permet de dire aux gens la monnaie c'est pas seulement une question de banquier. Nous citoyens, on a le droit d'y réfléchir, on a même le droit d'en créer. Donc la question maintenant, c'est de créer des belles monnaies, des monnaies qui soient basées sur l'économie réelle, sur les gens, et pas seulement sur des protocoles, sur des algorithmes obscurs et sur une puissance de calcul de processeurs dans des ordinateurs.
Eh bien, merci à vous trois d'avoir été avec nous pour répondre à cette question. Les monnaies électroniques vont-elles nous ruiner? Ludovic Desmet, professeur d'économie à l'Université de Bourgogne, Adlita Kalbataille, président du Cercle du Coin, et Stanislas Jourdan, depuis les studios de Radio France à Lyon, président du bureau européen de l'ONG Positive Money. Au passage, un grand merci à l'équipe technique de Lyon pour cette liaison. Vos références bibliographiques, des liens également vers les sites et de vos associations sont à retrouver sur notre site franceculture.fr à la page du Grain à Moudre, où vous pouvez également réécouter cette émission et même la podcaster. Un grand merci à toute l'équipe qui a préparé l'émission à mes côtés, Antoine Tricot, Marine Beccarelli, Philippine Debray, Eva Pellerin, à la réalisation Alexandra Candy-Longuet, et à la réalisation c'était Inès De Bruyne. Demain, dans du Grain à Moudre, nous parlerons politique du logement, où se situe l'urgence, mais tout de suite c'est l'heure de la dispute avec Arnaud Laporte, et c'est juste après le rappel des titres. Il est 19h sur France Culture.